Bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir pour moi d'être avec vous le dimanche après-midi et pouvoir partager la parole de Dieu. Merci à la sœur pour ce bel encouragement qui nous rappelle notre mission en tant que chrétien, ne pas nous arrêter autour de nous, mais véritablement nous soucier de ce monde, aller par-delà le monde, atteindre les extrémités de la terre, notre Seigneur nous a dit. Et c'est vraiment un bon encouragement. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager quelque chose qui va exactement dans cette lignée que le chrétien, la chrétienne est béni pour bénir. Il y a quelques semaines, on était avec Priscilla à la mairie pour faire des démarches administratives. Et normalement, à côté de la mairie, donc il faut aller préparer beaucoup de dossiers. Puis à côté, il y a un tabac et on avait besoin d'un timbre fiscal. Donc c'est quelque chose qu'on n'achète que dans des endroits précis qui s'appellent les tabacs. Et... Ouais, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, je m'étais dit, tiens, c'est bon, le dossier est prêt, mais je vais aller acheter juste avant le rendez-vous. Enfin, on n'avait pas vraiment de rendez-vous, mais à midi, ça fermait. Donc, avant d'aller, j'irai et j'achèterai un timbre fiscal. Et la mairie ne recevait plus à partir de 11h. Et à 11h, moins 5, donc je me dis, il me reste encore 5 minutes, je vais aller acheter. Le tabac est fermé. Ah ! Alors je dis, mince ! Et donc je commence à courir partout. Et je dis à Priscilla, va déjà prendre un ticket, va rentrer, etc. Et je ne trouve pas de tabac dans le coin. Et donc je cours, j'arrive en sueur devant là où Priscilla faisait la queue, elle était déjà rentrée. Et alors la dame, elle dit, bonjour, oui, alors vous avez tout ce qu'il vous faut ? Alors oui, presque. Donc elle commence à faire et puis elle fait la liste, elle dit vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, et puis après vous avez un timbre fiscal, et je dis là bah écoutez, je pensais que le tabac serait ouvert, désolé, j'ai pas le timbre fiscal. Ah, c'est vraiment dommage parce que là votre dossier était complet, mais il n'y a pas le timbre fiscal, vous savez, on peut pas recevoir. Et là, alors moi je dis bah ouais, je sais pas où est-ce qu'il y avait un autre tabac et tout, alors elle me demande est-ce que vous pensez qu'il y en a un à côté, etc. Et là elle fait quelque chose d'assez étonnant, elle dit bah attendez, je vais essayer de voir où est-ce qu'il y a un tabac dans le coin. Et là, elle va sur son ordinateur, elle commence à chercher. Elle dit, ah bah là, il y a un tabac juste à côté. Et puis, elle prend son téléphone. Et puis, elle passe un coup de fil. Bonjour, est-ce que vous êtes ouvert maintenant? Et puis, le tabac, il dit oui. Et dit, bon, d'accord, ok, vous vendez des tambours fiscaux? Oui. Et puis, elle raccroche. Et puis, elle dit, ben, vous pouvez aller, telle adresse, etc. On vous attend. Et là, j'ai halluciné. Je me suis dit, waouh, franchement, impressionnant. Et je me suis posé une question. Est-elle chrétienne? Est-elle chrétienne? Et on n'a pas eu l'occasion de parler de ça, mais en tout cas, voilà, tout s'est bien passé. J'ai pu aller et on était vraiment bénis. Il se trouvait qu'elle était nouvelle aussi, donc peut-être que ça jouait. Mais est-elle chrétienne? Parce que les chrétiens sont appelés à bénir les autres. Notre marque de fabrique, c'est de faire du bien aux autres. C'est quelque chose que le Seigneur nous a encouragé à faire, nous encourage à faire, et pas juste parce que ça fait bien de faire du bien aux autres, mais parce que nous sommes nous-mêmes bénis. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous, et je vois en particulier ça dans un des textes, donc dans Éphésiens chapitre 4, qu'on vient de lire. Juste pour rappeler le contexte, Paul écrit à cette église, et il leur dit tout ce qu'ils ont reçu en Jésus. Tout le chapitre 1, le chapitre 2, c'est vraiment l'immensité des bénédictions que Dieu a données à ces personnes. Vous êtes pardonnés, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes enfants de Dieu, vous avez été choisis. Et il leur dit tout ce qu'ils ont reçu. Il leur donne vraiment, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez reçu. Et au chapitre 3, il continue. Et ensuite, une fois qu'il leur a dit tout ce qu'ils ont reçu, alors il va les encourager à agir en fonction de ce qu'ils ont reçu. Et ces trois et ces quelques versets qu'on vient de lire nous donnent un zoom sur quelques-uns de ces axes que le chrétien a reçus. Et aujourd'hui, la marche chrétienne, votre marche chrétienne, ma marche chrétienne, est vraiment dépendante de la conscience que vous avez des bénédictions que vous avez reçues. Vous pouvez avancer dans la marche chrétienne parce que vous savez ce que vous avez reçu en Jésus. Mais si vous voyez dans la marche chrétienne que des choses à faire et à ne pas faire, alors vous ne recevrez pas la force que le Seigneur Jésus veut nous donner. Nous sommes appelés à être des bénédictions, comme cette femme l'a été pour moi, mais avant tout, nous sommes appelés à recevoir ces bénédictions. Et dans ce texte, c'est ce qu'il dit. Donc, je vais le reprendre. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Et dedans, j'aimerais voir trois choses que nous avons réussies et reçues et trois choses dans lesquelles nous sommes poussés. Premièrement, nous avons été pardonnés pour pardonner. Deuxièmement, nous avons été accueillis en tant qu'enfants pour accueillir. Et troisièmement, nous avons été aimés pour aimer. Et donc, l'idée, c'est de déjà regarder qu'est-ce que ça veut dire être pardonné. On voit que le pardon, quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure dans sa prière, en fait, dans la parole de Dieu, mine de rien, c'est quelque chose d'absolument crucial, absolument central dans la parole de Dieu. On connaît ce verset, « Pardonnez-vous réciproquement », donc ce qu'on vient de lire, « comme Dieu vous a pardonné », mais dans le Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». On connaît cette histoire du serviteur ingrat qui avait été pardonné, on lui avait démis ses dettes et on estime, pour vous donner une idée, que c'était... On dit que c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros qu'on lui a dit, tu n'auras plus à les payer, ton roi est bienveillant, il t'enlève cette dette. Et lui, il sort, il vient juste d'être libéré de cette dette de plusieurs centaines de milliers d'euros, et il voit quelqu'un qui lui doit 50 euros, et il ne le lâche pas. Et il lui dit, rends-moi mes 50 euros. Jésus lui dit, quand quelqu'un est pardonné de ses péchés, s'il ne pardonne pas, il est comme cet homme-là. Et enfin, Jésus qui parle avec un pharisien qui s'appelle Simon et qui juge Jésus parce qu'il ne comprend pas que cette femme est une femme prostituée, celle qui est en train de toucher les pieds de Jésus, qui est en train d'embrasser les pieds de Jésus, qui est en train de caresser les pieds de Jésus. Il dit, mais en fait, elle m'aime parce qu'elle a beaucoup été pardonnée et on aime peu si on a peu été pardonné. Et donc on voit que pour Jésus, le pardon et la compréhension du pardon sont cruciales dans la marche chrétienne et dans la foi en général. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble quel est ce pardon que Jésus nous a donné. Je vais survoler rapidement quelques versets dans Éphésiens chapitre 1, donc puisqu'on est dans le même texte, hein, on vient de lire Éphésiens 4, 32 et 5, verset 2. Et donc Paul, il parle déjà dans Éphésiens de ce fameux pardon. Donc je vais vous lire... quelques versets, Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Et ensuite, je vais dans le chapitre 2 et je regarde quelques versets aussi. Il dit, Dieu est riche en compassion à cause du grand amour qu'il nous a aimés. Nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a rendu la vie. Avec Christ, c'est par lui que vous êtes sauvés. Et verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et donc, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce pardon que vous et moi, et j'espère tous dans cette salle, nous avons reçu. Quelles sont ses caractéristiques ? Tout d'abord, le pardon que Dieu me donne, que Dieu te donne, il est coûteux. Il est coûteux parce qu'il a coûté la vie de Jésus-Christ. Il n'est pas léger. Quand je demande pardon, je veux me rappeler que avant tout, ça a coûté à Jésus-Christ. Jésus s'est donné, il a souffert et il a été crucifié pour cela. Mais le pardon de Jésus, le pardon que Dieu nous accorde en Jésus, il est aussi abondant et complet, entier, plein. Nous, c'est difficile quand quelqu'un nous fait quelque chose d'oublier, n'est-ce pas ? Mais Dieu, il dit que j'effacerai tes péchés. Et quand je te pardonne, c'est complet. Il n'y a plus rien qui ne reste. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, on s'en rappelle, même si on essaie de pardonner. Mais Dieu, il dit, moi, je te pardonne abondamment. Tout ce que tu as fait, je te le mets de côté et tu es libéré. Le pardon de Jésus est immérité. Peut-être parfois, je ne sais pas si vous voyez avec quand vous faites de l'évangélisation ou quand vous êtes avec des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, il y en a qui me disent ben, je m'arrangerai avec Dieu. Moi, j'étais pas trop mauvais, quoi. Hein. J'ai quand même fait des bonnes actions. Et puis, je pense quand même que Dieu va, voilà, quoi, il va me pardonner quand même. J'ai fait des bonnes choses, moi. Non, le pardon de Dieu est immérité. Personne ne mérite le pardon de Dieu. Ensuite, dans ce texte, il dit que Dieu, dans son infinie bonté, le pardon de Dieu est infini. Il n'a pas de limite. Et enfin, le pardon de Dieu est libérateur. Ça veut dire que vous n'êtes plus sous la coupe du péché. Vous n'êtes plus sous les conséquences du péché. Vous êtes libéré. Voilà toutes les caractéristiques du pardon. Et donc, c'est important que vous soyez conscients, que nous soyons conscients de la magnificence, de l'immensité, de l'abondance, de l'infini du pardon de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que comme ça, vous êtes conscients que Dieu, j'aime cette image, l'idée c'est de se dire, vous vous mettez sous la bénédiction de Dieu et vous recevez tout ce qu'il vous donne. Quand tu viens en Jésus, c'est comme quelqu'un qui est en dessous d'une chute d'eau et qui reçoit de l'eau en abondance, qui est béni abondamment. Bénédiction. Mais une fois qu'on a compris ça, alors tout de suite les paroles de Paul prennent une autre ampleur, n'est-ce pas? Je vous le relis. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Et là, la question se pose. Est-ce que le pardon, quand quelqu'un nous offense, et je pense que ça arrive à toutes et à tous, et même malheureusement régulièrement, quelqu'un vous méprise, quelqu'un ne vous considère pas. Évidemment, notre première réaction, c'est l'irritation, c'est la rancœur. Et ça peut se passer à l'école, ça peut se passer dans le travail, ça peut se passer à l'église aussi. Ça peut se passer même dans le couple, dans la famille, avec les parents, les frères et sœurs. Et le Seigneur nous dit, là, je te demande de pardonner comme tu as été pardonné. Si vraiment tu as reçu toute la bénédiction, alors je t'encourage à pardonner. Et on l'a vu, c'est très important pour Jésus que le chrétien devienne comme lui. Et la question que je vous pose, c'est, quand vous pardonnez, est-ce que cela vous coûte? Oui, ça coûte. Et c'est normal. Est-ce que notre pardon est abondant et complet? Est-ce qu'on dit à la personne, désormais, je te libère de toute volonté de me venger? C'est souvent ça le pardon. C'est qu'on enlève toute volonté de se venger ou de voir l'autre payer pour sa faute envers nous. J'ai envie qu'il paye pour ce qu'il a fait contre moi. Est-ce que notre pardon est mérité? Et ça, c'est une bonne question. Parfois, on va se dire, je vais te pardonner si. Si tu... Là, je te pardonnerai. Parfois, j'accompagne des couples au mariage et il y a des appels de l'homme et des appels de la femme et je vois que parfois, il y a des hommes ou il y a des femmes qui vont dire, moi, je suis prêt à faire ça à mon épouse si elle fait ça. Je suis prêt à l'aimer comme Jésus si elle me respecte. Non, tu l'aimes avant même qu'elle te respecte. Jésus nous appelle à aimer avant même que l'autre fasse quoi que ce soit. Notre pardon est-il immérité? Dieu est le seul qui peut pardonner de façon infinie et par la puissance de l'Esprit, il nous permet de pardonner réellement profondément. Et enfin, notre pardon il est libérateur pour la personne, mais j'aimerais vous dire aussi pour nous. Quand quelqu'un pardonne, quand vous lâchez la rancœur envers quelqu'un, l'amertume, la volonté de le voir puni, ça vous libère. Quelqu'un avait donné l'image d'une canne à pêche. Donc c'est comme si vous imaginez quelqu'un qui est en train de pêcher, et il a une grande canne à pêche. Et pour pêcher, vous savez, vous devez lancer en arrière et ensuite vous allez lancer le plus loin. Et là, vous imaginez le gars qui lance comme ça en arrière, et vous êtes derrière, vous faites attraper. Ouais. Et lui, il tire partout, il comprend pas, il tire, il tire, il tire. Et quelqu'un disait, quand quelqu'un nous offense, c'est un peu comme ça. Il ne le sait pas forcément, mais nous, on a été attrapés. Et il bouge, et dès qu'il bouge, ça nous fait mal, on s'énerve, etc. Et pardonner la personne, se débarrasser de la volonté de la voir payer pour ce qu'elle est en train de faire, c'est comme si on enlevait l'hameçon. Et ne pas pardonner la personne, c'est comme si on garde l'hameçon. Parce qu'on se fait mal, on rumine l'amertume, on rumine la rancœur, on est là, mais hey, t'as vu, voilà comment elle est, regarde là, et puis que vous la voyez, ça vous énerve encore plus. Libérez-vous de cela. Et le Seigneur nous donne quelque chose de coûteux, d'abondant, de complet, d'immérité. Faisons la même chose. La deuxième partie, c'est soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et là, il est important qu'on soit conscient que nous sommes adoptés comme enfants de Dieu, accueillis. Et là, dans Éphésiens 1 et 2, encore une fois, il va parler de cette adoption que Dieu a eue pour vous et moi lorsque vous êtes en Jésus-Christ. Il va vous parler du fait que nous sommes héritiers. Ça veut dire qu'il a préparé une richesse pour vous et moi et vous allez le recevoir. Vous régnerez avec Christ. Son propre esprit, Jésus-Christ a décidé de le faire habiter en vous. Chapitre 1, verset 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez accès au Père. Vous avez accès au Créateur. Vous êtes en relation directe avec celui qui est le Maître éternel. Alors pour ceux qui travaillent, moi je me rappelle dans ma société, c'était très important de connaître des gens bien placés. Comme ça tu progresses mieux, tu as des bonnes missions. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait à sauter un peu les échelons, quelqu'un a sauté les échelons, on se disait, mais alors il connaît qui lui ? C'était l'ami de qui ? De quel directeur ? Et là, on vous dit, vous avez accès, vous êtes fils du Créateur du ciel et de la terre. Vous êtes fils du Très-Haut, du Roi éternel. Est-ce qu'on a conscience en tant que chrétien qu'on a un plus grand privilège que tous ceux qui connaissent plein de directeurs ? On a comme Père le Maître éternel. Le Seigneur Dieu. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Et chaque instant, on peut l'appeler, chaque instant, on peut le contacter, chaque instant, on peut être en communion avec lui par la grâce de Jésus-Christ. Et enfin, nous sommes membres de sa famille. Et vous et moi, nous sommes accueillis, nous sommes acceptés entièrement. Et encore une fois, dans le travail, vous savez, on a... Pour ceux qui prennent un CDI et même parfois des CDD, on a des périodes d'essai. Donc les périodes d'essai, c'est une période où on peut te virer, où tu peux partir, mais aussi on peut t'arrêter. Et dans cette période d'essai, on va essayer en général d'être le plus opérationnel possible. Donc ça veut dire que tu as signé le contrat, tu es embauché, mais tu n'es pas encore complètement dedans. Parce que tu sais que tu as encore une épée de Damoclès sur la tête. Et donc, tu vas tout faire pour pouvoir bien travailler, être sûr que ton patron est content, etc., pour ne pas te faire virer. Eh bien, sachez que dans la famille de Dieu, il n'y a pas de période d'essai. À partir du moment où Jésus te dit « Tu es mon enfant bien-aimé », tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as pas à chercher à dire « Seigneur, regarde, tu peux répondre à mes prières parce que je suis quelqu'un de bien, regarde. Seigneur, regarde, tu as eu le droit de me choisir, tu as eu bien fait de me choisir parce que je regarde tes commandements. » Non, tu es accueilli, quel que soit ton état, quelle que soit ta attitude. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ et son pardon, tu es pleinement accueilli et il n'y a pas de période d'essai. Encore une fois, vous recevez tout cela, toutes les bénédictions que le Seigneur vous donne. Mettez-vous dedans, recevez et appréciez. Et c'est pour ça qu'on aime louer le Seigneur, parce que dans ce temps de louange, on se rappelle de tout ce que le Seigneur nous a donné, de tout ce qu'il nous a accordé. Et c'est vraiment important. Et lorsque le Seigneur nous appelle à pardonner parce qu'on a été pardonné, à accueillir lorsqu'on a été accueilli, à bénir parce qu'on a été béni, je vois que c'est comme si vous êtes en dessous de cette bénédiction, vous recevez tout cela, et le Seigneur vous dit, va donner un seau d'eau à cette personne. Il y a assez, n'est-ce pas? Mais on va rechigner, oh, mais le seau d'eau, ça va être lourd, est-ce qu'il y aura vraiment assez d'eau? Bien sûr qu'il y aura assez d'eau, tu es sous une fontaine. Ça va coûter, c'est vrai, d'aimer, ça va coûter de faire du bien. Mais vous avez toutes les ressources du Seigneur. Allez donner le seau d'eau, parce que vous êtes en dessous d'une fontaine. Le Seigneur nous dit, devenez les imitateurs de votre Père. Ça, c'est vraiment merveilleux, hein? C'est quand même un des versets où la barre est très, 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 très haute, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Waouh! Ça nous rappelle un autre verset, soyez saints car je suis saint. Et donc, très concrètement, comment cela peut se passer? Le chrétien est quelqu'un qui est appelé à accueillir et ne pas rejeter. Dans notre société, beaucoup de gens rejettent les autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on ne veut pas être de ceux-là. On veut être de ceux qui accueillons, quels qu'ils soient. On ne catégorise pas. On avait partagé pendant l'évangélisation, vous vous rappelez, souvent on distribue des tracts ou des évangiles, et parfois moi ce qui m'arrivait souvent c'était de me dire « Ah, lui je pense qu'il ne va pas prendre mon évangile vu sa tête, il me fait un peu peur donc je vais le donner à côté. » Non, non, on ne catégorise pas. On accueille tout le monde, lui et elle, on veut toutes et tous les bénir. Ou même dans le relationnel, peut-être il y a des personnes qui ne sont pas très faciles de relationnel, des personnes qui sont plus accessibles. Et on va dire, ah, cette personne est quand même difficile, hein. Faut pas forcément aller la voir. On ne veut pas catégoriser, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos études. Au contraire, c'est peut-être ces personnes qui sont le plus en marge que Dieu veut aller toucher pour les restaurer. Et on accueille même ceux qui ne le méritent pas, même ceux que la société rejette, mais même ceux qu'on pense qu'ils ne méritent pas. Ouais, il a fait trop de mal, lui. Et lui, de toute façon, quand on parle avec lui, il fait du mal aux autres. Et lui, Jésus veut accueillir tout le monde, on veut accueillir tout le monde. Vous et moi, nous avons été accueillis en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été appelés enfants de Dieu, les amis. C'est quelle grâce immense. Eh bien, on veut accueillir en tant qu'enfants de Dieu, et donc on veut agir en tant qu'enfants de Dieu. Agissons en tant qu'enfants de Dieu, dans notre sainteté, dans nos attitudes, dans nos pensées, agissons comme cette nature que nous avons reçue. Et enfin, aimer pour aimer. Je relis ce verset, Éphésiens chapitre 5, verset 2. « Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est donné lui-même comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Vivez dans l'amour. Que votre quotidien soit caractérisé par l'amour. Que les gens, quand ils vous voient, ils se disent « Tiens, cette personne-là, elle est là pour aimer. C'est son objectif de vie. » Vous savez, il y a des gens, vous discutez avec eux, vous sentez que leur passion, leur objectif de vie, c'est la moto. Il y en a d'autres, ce sera l'argent. D'autres, c'est la carrière. Pour nous, c'est l'amour. On veut être comme Jésus-Christ. Et c'est très intéressant que quand vous parlez avec des non-chrétiens, même des non-chrétiens qui connaissent très très peu sur Jésus, ils savent que Jésus... Il était là pour aimer, n'est-ce pas? Ils savent que Jésus n'était pas là pour faire du mal, etc. Ils savent que Jésus était là pour aimer, que Jésus est amour. Donc même des non-chrétiens qui s'en foutent complètement de la foi et de la religion, ils gardent cette caractéristique de Jésus-Christ. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, aimés par Christ, on veut continuer cet élan. L'amour de Christ, c'est un amour permanent. Il vous aime toujours. Ça ne baisse pas en fonction de ce que vous faites. Je pense dans nos relations, on a déjà vu ça, hein, et encore aujourd'hui, moi je le vois, des personnes qui s'entendent super bien pendant un temps, et puis après, encore récemment, j'ai discuté, et puis une personne me dit, je lui dis, est-ce que tu as des nouvelles de ton ami? Je lui dis, bah écoute, ça fait, il ne m'appelle plus, donc non, bah, je ne l'appelle plus. Il ne m'appelle plus, donc je ne l'appelle plus. Voilà. L'amour de Jésus-Christ, quelle que soit votre attitude envers lui, merci Seigneur, il est permanent. C'est un amour sacrificiel. Jésus a donné sa vie pour ses amis. Il s'est sacrifié pour ses amis. Il a donné de son sang pour que ses amis soient sauvés. C'est une décision personnelle, on le verra dans Philippiens, chapitre 2, où Jésus s'est dépouillé lui-même. Il s'est donné lui-même, dira Éphésiens 2 ici, Éphésiens 5, 2 ici. Il s'est donné lui-même. Donc Jésus a décidé d'aimer. C'est lui qui allait de l'avant pour aimer. Et enfin, c'est une obéissance et une soumission qui honore Dieu. C'est une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Et là encore, recevez, les amis, cet amour. Réjouissez-vous que, quelle que soit votre situation, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, est-ce que des relations difficiles à gérer, un stress par rapport à l'avenir, une carrière, un environnement difficile dans le travail, dans le voisinage, vous avez reçu les plus belles bénédictions. Prenez le temps d'apprécier ce que Jésus-Christ vous a donné. Il n'y a rien de plus beau. Quand on a Jésus, on a tout. Et c'est souvent avec les frères et sœurs persécutés qu'on se le rappelle. Ils perdent tout et ils ont le sourire. Parce qu'ils savent qu'ils ont l'essentiel. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions savoir que nous avons l'essentiel. Car quand vous savez que vous avez l'essentiel en Jésus, alors vous êtes prêt à aimer les autres. Mais appréciez ce que le Seigneur vous a accordé. Et Christ est notre exemple. Soyez les imitateurs de Dieu. Marchez à l'exemple de Christ. Prêt à toujours aimer. Et j'aimerais que vous puissiez réfléchir autour de vous. Quelles sont les personnes que Dieu vous appelle à aimer en particulier? C'est une décision, encore une fois, que je disais. Prêt même à donner, à nous dépouiller, à payer de notre poche, à payer de notre temps, de notre argent, de notre énergie, de nos compétences pour soutenir, pour faire du bien, pour encourager. Et c'est une décision personnelle que vous prenez. Et lorsqu'on aime, j'aimerais vous dire qu'il y a la joie de savoir qu'on fait la volonté de Dieu. Car c'est la démarche que le Seigneur nous pousse à faire. Christ est notre exemple. Et donc j'aimerais être très concret, j'aimerais qu'on puisse, je l'avais fait parfois, qu'on puisse réfléchir cette semaine à une personne que vous aimeriez bénir. En particulier. Et je vous propose de vous mettre par groupe de deux ou trois. Ça faisait longtemps, hein, n'est-ce pas? Et dire, tiens, j'ai envie de faire du bien à telle personne. Alors que ce soit dans ma famille, dans mon voisinage, dans mon école, dans mon travail. Et est-ce que tu peux prier pour ça? Une personne. Pas beaucoup, hein, normalement c'est tout le monde. Mais là, on propose juste une personne. Est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage, et encore une fois, elle n'a pas forcément besoin de le mériter, pas forcément quelqu'un d'agréable, peut-être même le contraire, peut-être quelqu'un qui est parfois désagréable. Cette personne-là, j'ai envie de la bénir. Et rappelez-vous, je vous encourage à le faire, non pas juste parce que c'est bien, mais parce que vous avez été béni. Donc, voilà, juste tournez-vous vers votre voisin, votre voisine, devant, derrière, rapidement, et... Réfléchissez à une personne et tu dis, voilà, je veux que tu pries pour cette personne, je veux que tu pries pour moi parce que je veux faire du bien à telle personne. Et si vous ne vous connaissez pas, j'imagine que vous le savez, mais prenez le temps de vous dire bonjour, je m'appelle. Alors, je vais juste rajouter une question, non pas une règle. Parmi les trois points, avoir été pardonné, avoir été accueilli ou avoir été aimé, lequel vous touche le plus? Lequel vous vous dites, moi j'ai besoin aussi de ça le plus? Donc voilà, donc deux questions, la première, lequel vous touche le plus, et le deuxième, une personne que vous aimeriez bénir. Voilà. Alors je vous invite à clôturer ce moment par juste un temps de remerciement. Et ensuite, je prierai pour les personnes que vous avez choisies. Mais encore une fois, on pourra aimer l'autre, bénir l'autre, le pardonner, si on sait qu'on a été aimé, si on sait qu'on a été béni, si on sait qu'on a été pardonné. C'est ça qui va nous pousser vers l'autre. Et vous ne pouvez pas y aller sans être convaincu que Jésus-Christ vous a aimé et que vous êtes rempli de l'Esprit. Et une fois que vous savez ça, alors vous pouvez y aller. C'est encore une fois cette image de vous êtes sous la fontaine et vous amenez un seau d'eau. Certes, c'est coûteux, certes, vous allez faire quelques pas, mais le Seigneur va vous remplir aussi vite que vous avez vidé ce seau d'eau. Donc, on va remercier le Seigneur, on va se tourner vers lui, on va se tourner vers sa croix, et ensuite, on clôturera. Gloire te soit rendue, notre Dieu, notre roi, merci parce que tu nous appelles à être une bénédiction pour notre entourage. Tu nous appelles à être bénédiction dans notre voisinage, dans notre couple, dans notre foyer, dans notre église, dans où que tu nous places, notre Dieu, notre roi, tu nous appelles à être une bénédiction. Mais cela est possible parce que tu nous as bénis, parce que tu nous as fait du bien, parce que tu nous as remplis, parce que tu nous as pardonné de nos fautes, parce que nous savons que nous sommes en communion avec Christ, en communion avec Dieu, avec le Père. Tout cela est possible parce que tu es au centre de nos vies. Et nous voulons encore te demander de faire du bien à ceux qui, cet après-midi, peut-être n'ont pas la pleine conviction d'être pardonnés, n'ont pas la pleine conviction d'être accueillis, n'ont pas la pleine conviction d'être aimés. Que tu touches leur cœur cet après-midi, qu'ils ne sortent pas de cette salle sans avoir reçu de ta part une touche spéciale où Jésus-Christ a manifesté son amour pour eux. Fais-leur du bien. Et fais du bien à tous ceux qui s'engagent à aimer un proche, un voisin, une voisine, un collègue, un ami. Que tu les remplisses de ton Esprit Saint, de ton amour, et que cette semaine soit une semaine de victoire, de bénédiction pour beaucoup de gens. Au nom de Jésus-Christ. Amen.